Lettre 21 de Saint-Preux à Julie.
Tu l'as voulu, Julie. Il faut donc te les dépeindre, ces aimables parisiennes. Orgueilleuse, cet hommage manquait à tes charmes. Avec toute ta feinte jalousie, avec ta modestie et ton amour, je vois plus de vanité que de crainte cachée sous cette curiosité. Quoi qu'il en soit, je serai vrai, je puis l'être. Je serais de meilleur cœur si j'avais davantage à louer. Que ne sont-elles 100 fois plus charmantes? Que n'ont-elles assez d'attrait pour rendre un nouvel honneur au tien? Tu te plaignais de mon silence. Eh mon Dieu, que t'aurais-je dit? En lisant cette lettre, tu sentiras pourquoi j'aimais à te parler des Valaisannes, tes voisines, et pourquoi je ne te parlais point des femmes de ce pays. C'est que les unes me rappelaient à toi sans cesse, et que les autres... Lis, et puis tu me jugeras. Au reste... Peu de gens pensent comme moi des dames françaises, si même je ne suis sur leur compte tout à fait seul de mon avis. C'est sur quoi l'équité m'oblige à te prévenir, afin que tu saches que je te les représente, non peut-être comme elles sont, mais comme je les vois. Malgré cela, si je suis injuste envers elles, tu ne manqueras pas de me censurer encore, et tu seras plus injuste que moi, car tout le tort en est à toi seul. Commençons par l'extérieur. C'est à quoi s'en tiennent la plupart des observateurs. Si je les imitais en cela, les femmes de ce pays auraient trop à s'en plaindre. Elles ont un extérieur de caractère aussi bien que de visage. Et comme l'un ne leur est guère plus favorable que l'autre, on leur fait tort en ne les jugeant que par là. Elles sont tout au plus passables de figure, et généralement plutôt mal que bien. Je laisse à part les exceptions. Menues plutôt que bien faites, elles n'ont point la taille fine. Aussi s'attache-t-elle volontiers aux modes qui la déguisent, en quoi je trouve assez simple les femmes des autres pays de vouloir bien imiter les modes faites pour cacher les défauts qu'elles n'ont pas. Leur démarche est aisée et commune. Leur port n'a rien d'affecté parce qu'elles n'aiment point à se gêner. Mais elles ont naturellement une certaine désinvoltura qui n'est point dépourvue de grâce, et qu'elles se piquent souvent de pousser jusqu'à l'étourderie. Elles ont le teint médiocrement blanc, et sont communément un peu maigres, ce qui ne contribue pas à embellir leur peau. À l'égard de la gorge, c'est l'autre extrémité des Valaisannes. Avec des corps fortement serrés, elles tâchent d'en imposer sur la consistance. Il y a d'autres moyens d'en imposer sur la couleur. Quoique je n'aie aperçu ces objets que de fort loin, l'inspection en est si libre qu'il reste peu de choses à deviner. Ces dames paraissent mal entendre en cela leurs intérêts, car pour peu que le visage soit agréable, l'imagination du spectateur les servirait au surplus beaucoup mieux que ses yeux. Et, suivant le philosophe Gascon, la faim entière est bien plus âpre que celle qu'on a déjà rassasiée, au moins par un sens. Leurs traits sont peu réguliers, mais si elles ne sont pas belles, elles ont de la physionomie qui supplée à la beauté, et l'éclipse quelquefois. Leurs yeux, vifs et brillants, ne sont pourtant ni pénétrants ni doux. Quoi qu'elles prétendent les animer à force de rouge, l'expression qu'elles leur donnent par ce moyen tient plus du feu de la colère que celui de l'amour. Naturellement, ils n'ont que de la gaieté, ou s'ils semblent quelquefois demander un sentiment tendre, ils ne le promettent jamais. Elles se mettent si bien, ou du moins elles en ont tellement la réputation, qu'elles servent en cela comme en tout de modèle au reste de l'Europe. En effet, on ne peut employer avec plus de goût un habillement plus bizarre. Elles sont de toutes les femmes les moins asservies à leur propre mode. La mode domine les provinciales, mais les parisiennes dominent la mode, et la savent plier, chacune à son avantage. Les premières sont comme des copistes ignorants et serviles qui copient jusqu'aux fautes d'orthographe. Les autres sont des auteurs qui copient en maître et savent rétablir les mauvaises leçons. Leur parure est plus recherchée que magnifique. Il y règne plus d'élégance que de richesse. La rapidité des modes, qui vieillit tout d'une année à l'autre, la propreté qui leur fait aimer à changer souvent d'ajustement, les préserve d'une somptuosité ridicule. Elles n'en dépensent pas moins, mais leur dépense est mieux entendue. En lieu d'habits râpés et superbes comme en Italie, on voit ici des habits plus simples et toujours frais. Les deux sexes ont à cet égard la même modération, la même délicatesse, et ce goût qui me fait grand plaisir. J'aime fort à ne voir ni galons ni taches. Il n'y a point de peuple, excepté le nôtre, où les femmes surtout portent moins la dorure. On voit les mêmes étoffes dans tous les étals, et l'on aurait peine à distinguer une duchesse d'une bourgeoise, si la première n'avait l'art de trouver des distinctions que l'autre n'oserait imiter. Et l'on aurait peine à distinguer une duchesse d'une bourgeoise, si la première n'avait l'art de trouver des distinctions que l'autre n'oserait imiter. Or, ceci semble avoir sa difficulté, car quelque mode qu'on prenne à la cour, cette mode est suivie à l'instant à la ville. Et il n'en est pas des bourgeoises de Paris comme des provinciales et des étrangères, qui ne sont jamais qu'à la mode qui n'est plus. Il n'en est pas encore comme dans les autres pays, où les grands, étant aussi les plus riches, leurs femmes se distinguent par un luxe que les autres ne peuvent égaler. Si les femmes de la cour prenaient ici cette voie, elles seraient bientôt effacées par celle des financiers. Qu'ont-elles donc fait? Elles ont choisi des moyens plus sûrs, plus adroits, et qui marquent plus de réflexion. Elles savent que des idées de pudeur et de modestie sont profondément gravées dans l'esprit du peuple. C'est là ce qui leur a suggéré des modes inimitables. Elles ont vu que le peuple avait en horreur le rouge, qu'il s'obstine à nommer grossièrement du fard. Elles se sont appliquées quatre doigts, non de fard, mais de rouge, car le mot changé, la chose n'est plus la même. Elles ont vu qu'une gorge découverte est en scandale au public. Elles ont largement échancré leur corps. Elles ont vu, oh, bien des choses, que ma Julie, toute demoiselle qu'elle est, ne verra sûrement jamais. Elles ont mis dans leur manière le même esprit qui dirige leur ajustement, cette pudeur charmante qui distingue, honore et embellit ton sexe, leur a paru vile et roturière. Elles ont animé leurs gestes et leurs propos d'une noble impudence, et il n'y a point d'honnête homme à qui leur regard assuré ne fasse baisser les yeux. C'est ainsi que, cessant d'être femmes, de peur d'être confondues avec les autres femmes, elles préfèrent leur rang à leur sexe et imitent les filles de joie afin de n'être pas imitées. J'ignore jusqu'où va cette imitation de leur part, mais je sais qu'elles n'ont pu tout à fait éviter celle qu'elles voulaient prévenir. Quant aux rouges et aux corps échancrés, ils ont fait tout le progrès qu'ils pouvaient faire. Les femmes de la ville ont mieux aimé renoncer à leur couleur naturelle et au charme que pouvait leur prêter l'amoureuse aux pensiers des amants, que de rester mises comme des bourgeoises. Et si cet exemple n'a point gagné les moindres états, c'est qu'une femme à pied dans un pareil équipage n'est pas trop en sûreté contre les insultes de la populace. Ces insultes sont le cri de la pudeur révoltée. Et dans cette occasion, comme en beaucoup d'autres, la brutalité du peuple, plus honnête que la bienséance des gens polis, retient peut-être ici 100 000 femmes dans les bornes de la modestie. C'est précisément ce qu'ont prétendu les adroites inventrices de ces modes. Quant au maintien soldatesque et au ton grenadier, il frappe moins, attendu qu'il est plus universel, et qu'il n'est guère sensible qu'aux nouveaux débarqués. Depuis le faubourg Saint-Germain jusqu'aux Halles, il y a peu de femmes à Paris dont l'abord, le regard, ne soit d'une hardiesse à déconcerter quiconque n'a rien vu de semblable en son pays. Et de la surprise où jettent ces nouvelles manières, naît cet air gauche qu'on reproche aux étrangers. C'est encore pis sitôt qu'elles ouvrent la bouche. Ce n'est point la voix douce et mignarde de nos vaudoises, c'est un certain accent dur, aigre, interrogatif, impérieux, moqueur et plus fort que celui d'un homme. S'il reste dans leur ton quelque grâce de leur sexe, leur manière intrépide et curieuse de fixer les gens achève de l'éclipser. Il semble qu'elles se plaisent à jouir de l'embarras qu'elles donnent à ceux qui les voient pour la première fois. Mais il est à croire que cet embarras leur plairait moins si elles en démêlaient mieux la cause. Cependant, soit prévention de ma part en faveur de la beauté, soit instinct de la sienne à se faire valoir, les belles femmes me paraissent en général un peu plus modestes, et je trouve plus de décence dans leur maintien. Cette réserve de leur coup de guerre, elles sentent bien leurs avantages, elles savent qu'elles n'ont pas besoin d'agacerie pour nous attirer, peut-être aussi que l'impudence est plus sensible et choquante, jointe à la laideur, et il est sûr qu'on couvrirait plutôt de soufflets que de baisers un laid visage effronté, au lieu qu'avec la modestie il peut exciter une tendre compassion qui mène quelquefois à l'amour. Mais quoique en général on remarque ici quelque chose de plus doux dans le maintien des jolies personnes, il y a encore tant de minauderies dans leur manière, et elles sont toujours si visiblement occupées d'elles-mêmes qu'on n'est jamais exposé dans ce pays à la tentation qu'avait quelquefois M. de Muralt auprès des Anglaises, de dire à une femme qu'elle est belle pour avoir le plaisir de le lui apprendre. La gaieté naturelle à la nation ni le désir d'imiter les grands airs, ne sont pas les seules causes de cette liberté de propos et de maintien qu'on remarque ici dans les femmes. Elle paraît avoir une racine plus profonde dans les mœurs, par le mélange indiscret et continuel des deux sexes, qui fait contracter à chacun d'eux l'air, le langage et les manières de l'autre. Nos Suissesses aiment assez à rassembler entre elles. Elles y vivent dans une douce familiarité, et quoique apparemment elles ne haïssent pas le commerce des hommes, il est certain que la présence de ceux-ci jette une espèce de contrainte dans cette petite gynécocratie. À Paris, c'est tout le contraire. Les femmes n'aiment à vivre qu'avec les hommes. Elles ne sont à leurs aises qu'avec eux. Dans chaque société, la maîtresse de la maison est presque toujours seule au milieu d'un cercle d'hommes. On a peine à concevoir d'où tant d'hommes peuvent se répandre partout, mais Paris est plein d'aventuriers et de célibataires qui passent leur vie à courir de maison en maison. Et les hommes semblent, comme les espèces, se multiplier par la circulation. C'est donc là qu'une femme apprend à parler, agir et penser comme eux, et eux comme elle. C'est là qu'unique objet de leur petite galanterie, elle jouit paisiblement de ces insultants hommages, auxquels on ne daigne pas même donner un air de bonne foi. Qu'importe. Sérieusement, ou par plaisanterie, on s'occupe d'elle et c'est tout ce qu'elle veut. Qu'une autre femme survienne, à l'instant le ton de cérémonie succède à la familiarité, les grands airs commencent, l'attention des hommes se partage, et l'on se tient mutuellement dans une secrète gêne dont on ne sort plus qu'en se séparant. Les femmes de Paris aiment à voir les spectacles, c'est-à-dire à y être vues. Mais leur embarras, chaque fois qu'elles y veulent aller, est de trouver une compagne, car l'usage ne permet à aucune femme d'y aller seule en grande loge, pas même avec son mari, pas même avec un autre homme. On ne saurait dire combien, dans ce pays si sociable, ces parties sont difficiles à former. De 10 qu'on en projette, il en manque 9. Le désir d'aller au spectacle les fait lier, l'ennui d'y aller ensemble les fait rompre. Je crois que les femmes pourraient abroger aisément cet usage inepte, car où est la raison de ne pouvoir se montrer seule en public? Mais c'est peut-être ce défaut de raison qui le conserve. Il est bon de tourner autant qu'on peut les bienséances sur des choses où il serait inutile d'en manquer. Que gagnerait une femme au droit d'aller sans compagne à l'opéra? Ne vaut-il pas mieux réserver ce droit pour recevoir, en particulier, ses amis? Il est sûr que 1000 liaisons secrètes doivent être le fruit de leur manière de vivre éparse et isolée parmi tant d'hommes. Tout le monde en convient aujourd'hui, et l'expérience a détruit l'absurde maxime de vaincre les tentations en les multipliant. On ne dit donc plus que cet usage est plus honnête, mais qu'il est plus agréable. Et c'est ce que je ne crois pas plus vrai. Car quel amour peut régner où la pudeur est en dérision? Et quel charme peut avoir une vie privée à la fois d'amour et d'honnêteté? Aussi, comme le grand fléau de tous ces gens si dissipés est l'ennui, les femmes se soucient-elles moins d'être aimées qu'amusées. La galanterie et les soins valent mieux que l'amour auprès d'elles. Et pourvu qu'on soit assidu, peu leur importe qu'on soit passionné. Les mots même d'amour et d'amant sont bannis de l'intime société des deux sexes, et relégués avec ceux de chêne et de flamme dans les romans qu'on ne lit plus. Il semble que tout l'ordre des sentiments naturels soit ici renversé. Le cœur n'y forme aucune chaîne. Il n'est point permis aux filles d'en avoir un. Ce droit est réservé aux seules femmes mariées et n'exclut du choix personne que leur mari. Il vaudrait mieux qu'une mère eût 20 amants que sa fille un seul. L'adultère n'y révolte point. On n'y trouve rien de contraire à la bienséance, les romans les plus décents, ceux que tout le monde lit pour s'instruire, en sont pleins, et le désordre n'est plus blâmable sitôt qu'il est joint à l'infidélité. Oh, Julie, telle femme qui n'a pas craint de souiller 100 fois le lit conjugal, oserait d'une bouche impure accuser nos chastes amours, et condamner l'union de deux cœurs sincères qui ne surent jamais manquer de foi. On dirait que le mariage n'est pas à Paris de la même nature que partout ailleurs. C'est un sacrement à ce qu'ils prétendent, et ce sacrement n'a pas la force des moindres contrats civils. Il semble n'être que l'accord de deux personnes libres qui conviennent de demeurer ensemble, de porter le même nom, de reconnaître les mêmes enfants, mais qui n'ont, au surplus, aucune sorte de droit l'une sur l'autre. Et un mari qui s'aviserait de contrôler ici la mauvaise conduite de sa femme n'exciterait pas moins de murmures que celui qui souffrirait chez nous le désordre public de la sienne. Les femmes, de leur côté, n'usent pas de rigueur envers leur mari, et l'on ne voit pas encore qu'elles les fassent punir d'imiter leurs infidélités. Au reste, comment attendre de part ou d'autre un effet plus honnête d'un lien où le cœur n'a point été consulté? Qui n'épouse que la fortune ou l'État ne doit rien à la personne. L'amour même, l'amour a perdu ses droits. Et il n'est pas moins dénaturé que le mariage. Si les époux sont ici des garçons et des filles qui demeurent ensemble pour vivre avec plus de liberté, les amants sont des gens indifférents qui se voient par amusement, par air, par habitude ou pour le besoin du moment. Le cœur n'a que faire à ces liaisons. On n'y consulte que la commodité de certaines convenances extérieures. C'est, si l'on veut, se connaître, vivre ensemble, s'arranger, se voir, moins encore, s'il est possible. Une liaison de galanterie dure un peu plus qu'une visite. C'est un recueil de jolis entretiens et de jolies lettres, pleines de portraits, de maximes, de philosophie et de bel esprit. À l'égard du physique, il n'exige pas tant de mystère. On a très sensément trouvé qu'il fallait régler sur l'instant des désirs la facilité de les satisfaire. La première venue, le premier venu, l'amant ou un autre, un homme est toujours un homme, tous sont presque également bons, et il y a du moins à cela de la conséquence, car pourquoi serait-on plus fidèle à l'amant qu'au mari? Et puis, à certain âge, tous les hommes sont à peu près le même homme, toutes les femmes la même femme. Toutes ces poupées qui sortent de chez la même marchande de mode, et il n'y a guère d'autre choix à faire que ce qui tombe le plus commodément sous la main. Comme je ne sais rien de ceci par moi-même, on m'en a parlé sur un ton si extraordinaire qu'il ne m'a pas été possible de bien entendre ce qu'on m'en a dit. Tout ce que j'en ai conçu, c'est que, chez la plupart des femmes, l'amant est comme un des gens de la maison. S'il ne fait pas son devoir, on le congédie ou l'on en prend un autre. S'il trouve mieux ailleurs ou s'ennuie du métier, il quitte et l'on en prend un autre. Il y a, dit-on, des femmes assez capricieuses pour essayer même du maître de la maison. Car enfin, c'est encore une espèce d'homme. Cette fantaisie ne dure pas. Quand elle est passée, on le chasse et l'on en prend un autre. Ou s'il s'obstine, on le garde et l'on en prend un autre. Mais, disais-je à celui qui m'expliquait ces étranges usages, comment une femme vit-elle ensuite avec tous ces autres-là qui ont ainsi pris ou reçu leur congé? Bon, reprit-il, elle n'y vit point. On ne se voit plus, on ne se connaît plus. Si jamais la fantaisie prenait de renouer, on aurait une nouvelle connaissance à faire, et ce serait beaucoup qu'on se souvînt de s'être vu. Je vous entends, lui dis-je, mais j'ai beau réduire ces exagérations, je ne conçois pas comment, après une union si tendre, on peut se voir de sang-froid, comment le cœur ne palpite pas au nom de ce qu'on a une fois aimé. Comment on ne tressaillit pas à sa rencontre? Vous me faites rire, interrompit-il, avec vos tressaillements. Vous voudriez donc que nos femmes ne fissent autre chose que tomber en syncope? Supprime une partie de ce tableau trop chargé, sans doute. Place Julie à côté du reste et souviens-toi de mon cœur. Je n'ai rien de plus à te dire. Il faut cependant l'avouer, plusieurs de ces impressions désagréables s'effacent par l'habitude. Si le mal se présente avant le bien, il ne l'empêche pas de se montrer à son tour. Les charmes de l'esprit et du naturel font valoir ceux de la personne. La première répugnance vaincue devient bientôt un sentiment contraire. C'est l'autre point de vue du tableau, et la justice ne permet pas de l'exposer que par le côté désavantageux. C'est le premier inconvénient des grandes villes, que les hommes y deviennent autres que ce qu'ils sont, et que la société leur donne pour ainsi dire un être différent du leur. Cela est vrai, surtout à Paris, et surtout à l'égard des femmes, qui tirent des regards d'autrui la seule existence dont elles se soucient. En abordant une dame dans une assemblée, au lieu d'une Parisienne que vous croyez voir, vous ne voyez qu'un simulacre de la mode. Sa hauteur, son ampleur, sa démarche, sa taille, sa gorge, ses couleurs, son air, son regard, ses propos, ses manières. Rien de tout cela n'est à elle. Et si vous la voyez dans son état naturel, vous ne pourriez la reconnaître. Or cet échange est rarement favorable à celles qui le font. Et en général, il n'y a guère à gagner à tout ce qu'on substitue à la nature. Mais on ne l'efface jamais entièrement. Elle s'échappe toujours par quelque endroit. Et c'est dans une certaine adresse à la saisir que consiste l'art d'observer. Cet art n'est pas difficile vis-à-vis des femmes de ce pays, car comme elles ont plus de naturel qu'elles ne croient en avoir, pour peu qu'on les fréquente assidûment, pour peu qu'on les détache de cette éternelle représentation qui leur plaît si fort, on les voit bientôt comme elles sont. Et c'est alors que toute l'aversion qu'elles ont d'abord inspirée se change en estime et en amitié. Voilà ce que j'eus l'occasion d'observer la semaine dernière, dans une partie de campagne où quelques femmes nous avaient assez étourdiment invités, moi et quelques autres nouveaux débarqués, sans trop s'assurer que nous leur convenions, ou peut-être pour avoir le plaisir d'y rire de nous à leur aise. Cela ne manqua pas d'arriver le premier jour. Elles nous accablèrent d'abord de traits plaisants et fins, qui, tombant toujours sans rejaillir, épuisèrent bientôt leur carquois. Alors elles s'exécutèrent de bonne grâce, et ne pouvant nous amener à leur ton, elles furent réduites à prendre le nôtre. Je ne sais si elles se trouvèrent bien de cet échange, pour moi je m'en trouvais à merveille. Je vis avec surprise que je m'éclairais plus avec elles que je n'aurais fait avec beaucoup d'hommes. Leur esprit ornait si bien le bon sens que je regrettais ce qu'elles en avaient mis à le défigurer. Et je déplorais, en jugeant mieux des femmes de ce pays, que tant d'aimables personnes ne manquassent de raison que parce qu'elles ne voulaient pas en avoir. Je vis aussi que les grâces familières et naturelles effaçaient insensiblement les airs apprêtés de la ville. Car sans y songer, on prend des manières assortissantes aux choses qu'on dit. Et il n'y a pas moyen de mettre à des discours sensés les grimaces de la coquetterie. Je les trouvais plus jolies depuis qu'elles ne cherchaient plus tant à l'être. Et je sentis qu'elles n'avaient besoin pour plaire que de ne pas se déguiser. J'osais soupçonner sur ce fondement que Paris, ce prétendu siège du goût, est peut-être le lieu du monde où il y en a le moins. Puisque tous les soins qu'on y prend pour plaire défigure la véritable beauté. Nous restâmes ainsi 4 ou 5 jours ensemble, comptant les uns des autres et de nous-mêmes. Au lieu de passer en revue Paris et ses folies, nous l'oubliâmes. Tout notre soin se bornait à jouir entre nous d'une société agréable et douce. Nous n'eûmes besoin ni de satire, ni de plaisanterie pour nous mettre de bonne humeur, et nos ris n'étaient pas de raillerie, mais de gaieté, comme ceux de ta cousine. Une autre chose acheva de me faire changer d'avis sur leur compte. Souvent, au milieu de nos entretiens les plus animés, on venait dire un mot à l'oreille de la maîtresse de la maison. Elle sortait, allait s'enfermer pour écrire, et ne rentrait de longtemps. Il était aisé d'attribuer ces éclipses à quelques correspondances de cœur, ou de celles qu'on appelle ainsi. Une autre femme en glissa légèrement un mot qui fut assez mal reçu, ce qui me fit juger que si l'absente manquait d'amant, elle avait au moins des amis. Cependant, la curiosité m'ayant donné quelque attention, quelle fut ma surprise en apprenant que ces prétendus grisons de Paris étaient des paysans de la paroisse qui venaient, dans leur calamité, implorer la protection de leur dame, l'un surchargé de taille à la décharge d'un plus riche, l'autre enrôlé dans la milice sans égard pour son âge et pour ses enfants, l'autre écrasé d'un puissant voisin par un procès injuste, l'autre ruiné par la grêle et dont on exigeait le bail à la rigueur. Enfin, tous avaient quelque chose à demander, tous étaient patiemment écoutés, et on n'en rebutait aucun. Et le temps attribué au billet doux était employé à écrire en faveur de ces malheureux. Et je ne saurais te dire avec quel étonnement j'appris, et le plaisir que prenait une femme si jeune et si dissipée à remplir ses aimables devoirs, et combien peu elle y mettait d'ostentation. « Comment ? » disais-je tout attendri. « Quand ce serait Julie, elle ne ferait pas autrement. » Dès cet instant, je ne l'ai plus regardée qu'avec respect, et tous ses défauts sont effacés à mes yeux. Sitôt que mes recherches se sont tournées de ce côté, j'ai appris 1000 choses à l'avantage de ces mêmes femmes que j'avais d'abord trouvées si insupportables. Tous les étrangers conviennent unanimement qu'en écartant les propos à la mode, il n'y a point de pays au monde où les femmes soient plus éclairées, parlent en général plus sensément, plus judicieusement, et sachent donner, au besoin, de meilleurs conseils. Ôtons le jargon de la galanterie et du bel esprit, quelle partie tirons-nous de la conversation d'une Espagnole, d'une Italienne, d'une Allemande? Aucun. Et tu le sais, Julie, ce qu'il en est communément de nos Suissesses. Mais qu'on ose passer pour peu galant et tirer les Françaises de cette forteresse, dont à la vérité elles n'aiment guère à sortir, on trouve encore à qui parler en rase campagne. Et l'on croit combattre avec un homme, tant elles savent s'armer de raison et faire de nécessité vertu. Quant au bon caractère, je ne citerai point le zèle avec lequel elles servent leurs amis. Car il peut régner en cela une certaine chaleur d'amour-propre qui soit de tous les pays, mais quoique ordinairement elles n'aiment qu'elles-mêmes une longue habitude, quand elles ont assez de constance pour l'acquérir, leur tient lieu d'un sentiment assez vif. Celles qui peuvent supporter un attachement de 10 ans le gardent ordinairement toute leur vie. Et elles aiment leurs vieux amis plus tendrement, plus sûrement au moins, que leurs jeunes amants. Une remarque assez commune qui semble être à la charge des femmes est qu'elles font tout dans ce pays, et par conséquent plus de mal que de bien. Mais ce qui les justifie est qu'elles font le mal poussé par les hommes et le bien de leur propre mouvement. Ceci ne contredit point ce que je disais ci-devant, que le cœur n'entre pour rien dans le commerce des deux sexes, car la galanterie française a donné aux femmes un pouvoir universel qui n'a besoin d'aucun tendre sentiment pour se soutenir. Tout dépend d'elles. Rien ne se fait que par elles ou pour elles. L'Olympe et le Parnasse, la gloire et la fortune sont également sous leur loi. Les livres n'ont pas de prix, les auteurs n'ont d'estime qu'autant qu'il plaît aux femmes de leur en accorder. Elles décident souverainement des plus hautes connaissances, ainsi que des plus agréables. Poésie, littérature, histoire, philosophie, politique même. On voit d'abord au style de tous les livres qu'ils sont écrits pour amuser de jolies femmes, et l'on vient de mettre la Bible en histoire galante. Dans les affaires, elles ont pour obtenir ce qu'elles demandent un ascendant naturel jusque sur leur mari, non parce qu'ils sont leur mari, mais parce qu'ils sont hommes, et qu'il est convenu qu'un homme ne refusera rien à aucune femme, fût-ce même la sienne. Au reste, cette autorité ne suppose ni attachement ni estime, mais seulement de la politesse et de l'usage du monde. Car d'ailleurs, il n'est pas moins essentiel à la galanterie française de mépriser les femmes que de les servir. Ce mépris est une sorte de titre qui leur en impose. C'est un témoignage qu'on a vécu assez avec elles pour les connaître. Quiconque les respecterait passerait à leurs yeux pour un novice, un paladin, un homme qui n'a connu les femmes que dans les romans. Elles se jugent avec tant d'équité que les honorer serait être indigne de leur plaire. Et la première qualité de l'homme à bonne fortune est d'être souverainement impertinent. Quoi qu'il en soit, elles ont beau se piquer de méchanceté, elles sont bonnes en dépit d'elles. Et voici à quoi surtout leur bonté de cœur est utile. En tout pays, les gens chargés de beaucoup d'affaires sont toujours repoussants et sans commisération. Et Paris étant le centre des affaires du plus grand peuple de l'Europe, ceux qui les font sont aussi les plus durs des hommes. C'est donc aux femmes qu'on s'adresse pour avoir des grâces. Elles sont le recours des malheureux. Elles ne ferment point l'oreille à leurs plaintes. Elles les écoutent, les consolent et les servent. Au milieu de la vie frivole qu'elles mènent, elles savent dérober des moments à leur plaisir pour les donner à leur bon naturel. Et si quelques-unes font un infâme commerce des services qu'elles rendent, des milliers d'autres s'occupent tous les jours gratuitement à secourir le pauvre de leur bourse et l'opprimé de leur crédit. Il est vrai que leurs soins sont souvent indiscrets et qu'elles nuisent sans scrupule aux malheureux qu'elles ne connaissent pas pour servir le malheureux qu'elles connaissent. Mais comment connaître tout le monde dans un si grand pays? Et que peut faire de plus la bonté d'âme séparée de la véritable vertu, dont le plus sublime effort n'est pas tant de faire le bien que de ne jamais faire le mal? À cela près, il est certain qu'elles ont du penchant pour le bien, qu'elles en font beaucoup, qu'elles le font de bon cœur, et que ce sont elles seules qui conservent dans Paris le peu d'humanité qu'on y voit régner encore, et que sans elles, on verrait les hommes avides et insatiables s'y dévorer comme des loups. Voilà ce que je n'aurais point appris si je m'en étais tenu aux peintures des faiseurs de romans et de comédies, lesquels voient plutôt dans les femmes des ridicules qu'ils partagent que les bonnes qualités qu'ils n'ont pas, ou qui peignent des chefs-d'œuvre de vertu qu'elles se dispensent d'imiter en les traitant de chimères, au lieu de les encourager au bien en louant celui qu'elles font réellement. Les romans sont peut-être la dernière instruction qu'il reste à donner à un peuple assez corrompu pour que tout autre lui soit inutile. Je voudrais qu'alors la composition de ces sortes de livres ne fût permise qu'à des gens honnêtes mais sensibles, dont le cœur se peignit dans leurs écrits, à des auteurs qui ne fussent pas au-dessus des faiblesses de l'humanité, qui ne montrassent pas tout d'un coup la vertu dans le ciel, hors de la portée des hommes, mais qui la leur fissent aimer, en la peignant d'abord moins austère, et puis du sein du vice, les y sussent conduire insensiblement. Je t'en ai prévenu, je ne suis en rien de l'opinion commune sur le compte des femmes de ce pays. On leur trouve unanimement l'abord le plus enchanteur, les grâces les plus séduisantes, la coquetterie la plus raffinée, le sublime de la galanterie et l'art de plaire au souverain degré. Moi, je trouve leur abord choquant, leur coquetterie repoussante, leur manière sans modestie. J'imagine que le cœur doit se fermer à toute leur avance. Et l'on ne me persuadera jamais qu'elles puissent un moment parler de l'amour sans se montrer également incapable d'en inspirer et d'en ressentir. D'un autre côté, la renommée apprend à se défier de leur caractère. Elle les peint frivoles, rusées, artificieuses, étourdies, volages, parlant bien mais ne pensant point, sentant encore moins, et dépensant ainsi tout leur mérite en vain babille. Tout cela me paraît à moi leur être extérieur, comme leur panier et leur rouge. Ce sont des vices de parade qu'il faut avoir à Paris, et qui, dans le fond, couvrent en elles du sens, de la raison, de l'humanité, du bon naturel. Elles sont moins indiscrètes, moins tracassières que chez nous, moins peut-être que partout ailleurs. Elles sont plus solidement instruites, et leur instruction profite mieux à leur jugement. En un mot, si elles me déplaisent par tout ce qui caractérise leur sexe qu'elles ont défiguré, je les estime par des rapports avec le nôtre qui nous font honneur. Et je trouve qu'elles seraient 100 fois plutôt des hommes de mérite que d'aimables femmes. Conclusion, si Julie n'eût point existé, si mon cœur eût pu souffrir quelque autre attachement que celui pour lequel il était né, je n'aurais jamais pris à Paris ma femme, encore moins ma maîtresse. Mais je m'y serais fait volontiers une amie, et ce trésor m'eût consolé peut-être de ne pas y trouver les deux autres.
Lettre 22. De Saint-Preux à Julie.
Depuis ta lettre reçue, je suis allé tous les jours chez M. Sylvestre demander le petit paquet. Il n'était toujours point venu, et dévoré d'une mortelle impatience, j'ai fait le voyage 7 fois inutilement. Enfin, la 8e, j'ai reçu le paquet. À peine l'ai-je eu dans les mains, que, sans payer le port, sans m'en informer, sans rien dire à personne, je suis sorti comme un étourdi, et, ne voyant le moment de rentrer chez moi, j'enfilais avec tant de précipitation des rues que je ne connaissais point, qu'au bout d'une demi-heure, cherchant la rue de Tournon où je loge, je me suis retrouvé dans le Marais, à l'autre extrémité de Paris. J'ai été obligé de prendre un fiacre pour revenir plus promptement. C'est la première fois que cela m'est arrivé, le matin, pour mes affaires. Je ne m'en sers même qu'à regret l'après-midi pour quelques visites, car j'ai 2 jambes fort bonnes, dont je serais bien fâché qu'un peu plus d'aisance dans ma fortune me fît négliger l'usage. J'étais fort embarrassé dans mon fiacre avec mon paquet. Je ne voulais l'ouvrir que chez moi, c'était en ordre. D'ailleurs, une sorte de volupté qui me laisse oublier la commodité dans les choses communes me la fait rechercher avec soin dans les vrais plaisirs. Je n'y puis souffrir aucune sorte de distraction, et je veux avoir du temps et mes aises pour savourer tout ce qui me vient de toi. Je tenais donc ce paquet avec une inquiète curiosité dont je n'étais pas le maître. Je m'efforçais de palper, à travers les enveloppes, ce qu'il pouvait contenir, et l'on eût dit qu'il me brûlait les mains, à voir les mouvements continuels qu'il faisait de l'une à l'autre. Ce n'est pas qu'à son volume, à son poids, au ton de ta lettre, que je n'eusse quelques soupçons de la vérité. Mais le moyen de concevoir comment tu pouvais avoir trouvé l'artiste et l'occasion, voilà ce que je ne conçois pas encore. C'est un miracle de l'amour. Plus il passe ma raison, plus il enchante mon cœur. Et l'un des plaisirs qu'il me donne est celui de n'y rien comprendre. J'arrive enfin. Je vole, je m'enferme dans ma chambre, je m'asseye hors d'haleine, je porte une main tremblante sur le cachet. Oh, première influence du talisman, j'ai senti palpiter mon cœur à chaque papier que j'ôtais, et je me suis bientôt trouvé tellement oppressé que j'ai été forcé de respirer un moment sur la dernière enveloppe. Julie, oh ma Julie, le voile est déchiré, je vois tes divins attraits. Ma bouche et mon cœur leur rendent le premier hommage, mes genoux fléchissent. Charmes adorés, encore une fois vous aurez enchanté mes yeux. Qu'il est prompt, qu'il est puissant, le magique effet de ces traits chéris. Non, il ne faut point, comme tu prétends, 1 quart d'heure pour le sentir. 1 minute, 1 instant suffit pour arracher de mon sein 1000 ardents soupirs et me rappeler avec ton image celle de mon bonheur passé. Pourquoi faut-il que la joie de posséder un si précieux trésor soit mêlée d'une si cruelle amertume? Avec quelle violence il me rappelle des temps qui ne sont plus. Je crois, en le voyant, te revoir encore, je crois me retrouver à ces moments délicieux dont le souvenir fait maintenant le malheur de ma vie, et que le ciel m'a donné et ravi dans sa colère. Hélas, un instant me désabuse, toute la douleur de l'absence se ranime et s'aigrit en m'ôtant l'erreur qui l'a suspendue. Et je suis comme ces malheureux, dont on interrompt les tourments que pour les leur rendre plus sensibles. Dieu, quel torrent de flammes mes avides regards puisent dans cet objet inattendu! Oh, comme il ranime au fond de mon cœur tous les mouvements impétueux que ta présence y faisait naître! Oh, Julie, s'il était vrai qu'il pût transmettre à tes sens le délire et l'illusion des miens, mais pourquoi ne le serait-il pas? Pourquoi des impressions que l'âme porte avec tant d'activité n'iraient-elles pas aussi loin qu'elle? Ah, chère amante, où que tu sois, quoi que tu fasses au moment où j'écris cette lettre, au moment où ton portrait reçoit tout ce que ton idolâtre amant adresse à ta personne, ne sens-tu pas ton charmant visage inondé des pleurs de l'amour et de la tristesse? Ne sens-tu pas tes yeux, tes joues, ta bouche, ton sein, pressés, comprimés, accablés de mes ardents baisers? Ne te sens-tu pas embrasée tout entière du feu de mes lèvres brûlantes? Ciel, qu'entends-je? Quelqu'un vient. Ah, serrons, cachons mon trésor. Un importun. Maudit soit le cruel qui vient troubler des transports si doux. Puisse-t-il ne jamais aimer, ou vivre loin de ce qu'il aime?
Lettre 23. 23 de Saint-Preux à Claire, Madame d'Orbe.
C'est à vous, charmante cousine, qu'il faut rendre compte de l'opéra. Car bien que vous ne m'en parliez point dans vos lettres, et que Julie vous ait gardé le secret, je vois bien d'où lui vient cette curiosité. J'y fus une fois, pour contenter la mienne. J'y suis retourné pour vous deux autres fois. Tenez, m'en quitte, je vous prie, après ces lettres. Je puis y retourner encore, y bâiller, y souffrir, y périr, pour votre service, mais y rester éveillé et attentif, cela ne m'est pas possible. Avant de vous dire ce que je pense de ce fameux théâtre, que je vous rende compte de ce qu'on en dit ici. Le jugement des connaisseurs pourra redresser le mien, si je m'abuse. L'Opéra de Paris passe à Paris pour le spectacle le plus pompeux, le plus voluptueux, le plus admirable qu'inventa jamais l'art humain. C'est, dit-on, le plus superbe monument de la magnificence de Louis XIV. Il n'est pas si libre à chacun que vous le pensez de dire son avis sur ce grave sujet. Ici, l'on peut disputer de tout, hors de la musique et de l'opéra. Il y a du danger à manquer de dissimulation sur ce seul point. La musique française se maintient par une inquisition très sévère. Et la première chose qu'on insinue par forme de leçon à tous les étrangers qui viennent dans ce pays, c'est que tous les étrangers conviennent qu'il n'y a rien de si beau dans le reste du monde que l'opéra de Paris. En effet, la vérité est que les plus discrets s'en taisent et n'osent rire qu'entre eux. Il faut convenir pourtant qu'on y représente à grands frais non seulement toutes les merveilles de la nature, mais beaucoup d'autres merveilles bien plus grandes que personne n'a jamais vues, et sûrement Pope a voulu désigner ce bizarre théâtre par celui où il dit qu'on voit pêle-mêle des dieux, des lutins, des monstres, des rois, des bergers, des fées, de la fureur, de la joie, un feu, une gigue, une bataille et un bal. Cet assemblage si magnifique et si bien ordonné est regardé comme s'il contenait en effet toutes les choses qu'il représente. En voyant paraître un temple, on est saisi d'un saint respect. Et pour peu que la déesse en soit jolie, le parterre est à moitié païen. On n'est pas si difficile ici qu'à la Comédie française. Ces mêmes spectateurs qui ne peuvent revêtir un comédien de son personnage ne peuvent à l'opéra séparer un acteur du sien. Il semble que les esprits se roidissent contre une illusion raisonnable, et ne s'y prêtent qu'autant qu'elle est absurde et grossière. Ou peut-être que des dieux leur coûtent moins à concevoir que des héros, Jupiter étant d'une autre nature que nous, et on en peut penser ce qu'on veut. Mais Caton était un homme, et combien d'hommes ont le droit de croire que Caton ait pu exister? L'opéra n'est donc point ici comme ailleurs une troupe de gens payés pour se donner en spectacle au public. Ce sont, il est vrai, des gens que le public paye et qui se donnent en spectacle, mais tout cela change de nature, attendu que c'est une académie royale de musique, une espèce de cour souveraine qui juge sans appel dans sa propre cause, et ne se pique pas autrement de justice ni de fidélité. Voilà, cousine, comment dans certains pays l'essence des choses tient aux mots. et comment des noms honnêtes suffisent pour honorer ce qui l'est le moins. Les membres de cette noble académie ne dérogent point. En revanche, ils sont excommuniés, ce qui est précisément le contraire de l'usage des autres pays. Mais peut-être, ayant eu le choix, aimerait-il mieux être noble et damné que roturier et béni. J'ai vu sur le théâtre un chevalier moderne aussi fier de son métier qu'autrefois l'infortuné Labirius fut humilié du sien, quoiqu'il le fît par force, et ne récita que ses propres ouvrages. Aussi l'ancien Labirius ne put-il reprendre sa place au cirque parmi les chevaliers romains, tandis que le nouveau en trouve tous les jours une sur les bancs de la Comédie-Française parmi la première noblesse du pays. Et jamais on n'entendit parler à Rome avec tant de respect de la majesté du peuple romain qu'on parle à Paris de la majesté de l'opéra. Voilà ce que j'ai pu recueillir des discours d'autrui sur ce brillant spectacle. Que je vous dise à présent ce que j'y ai vu moi-même. Figurez-vous une gaine large d'une quinzaine de pieds et longue à proportion. Cette gaine est le théâtre. Aux deux côtés, on place par intervalle des feuilles de paravent sur lesquelles sont grossièrement peints les objets que la scène doit représenter. Le fond est un grand rideau peint de même, et presque toujours percé ou déchiré, ce qui représente des gouffres dans la terre ou des trous dans le ciel, selon la perspective. Chaque personne qui passe derrière le théâtre et touche le rideau produit en l'ébranlant une sorte de tremblement de terre, assez plaisant à voir. Le ciel est représenté par certaines guenilles bleuâtres, suspendues à des bâtons ou à des cordes, comme l'étendage d'une blanchisseuse. Le soleil, car on l'y voit quelquefois, est un flambeau dans une lanterne. Le char des dieux et des déesses sont composés de quatre solives encadrées et suspendues à une grosse corde en forme d'escarpolette. Entre ces solives est une planche en travers sur laquelle le dieu s'asseye. Et sur le devant pend un morceau de grosse toile barbouillée qui sert de nuage à ce magnifique char. On voit vers le bas de la machine l'illumination de deux ou trois chandelles puantes et mal mouchées qui, tandis que le personnage se démène et crie en branlant sur son escarpolette, l'enfume tout à son aise. On sent digne de la divinité. Comme les chars sont la partie la plus considérable des machines de l'opéra, sur celle-là vous pouvez juger des autres. La mer agitée est composée de longues lanternes angulaires, de toiles ou de carton bleu qu'on enfile à des broches parallèles et qu'on fait tourner par des polissons. Le tonnerre est une lourde charrette qu'on promène sur le cintre et qui n'est pas le moins touchant instrument de cette agréable musique. Les éclairs se font avec des pincées de pois résine qu'on projette sur un flambeau. La foudre est un pétard au bout d'une fusée. Le théâtre est garni de petites trappes carrées qui, s'ouvrant au besoin, annoncent que les démons vont sortir de la cave. Quand ils doivent s'élever dans les airs, on leur substitue adroitement de petits démons de toile brune empaillée ou quelquefois de vrais ramoneurs qui branlent en l'air, suspendus à des cordes, jusqu'à ce qu'ils se perdent majestueusement dans les guenilles dont j'ai parlé. Mais ce qu'il y a de réellement tragique, c'est quand les cordes sont mal conduites ou viennent à rompre. Car alors, les esprits infernaux et les dieux immortels tombent, s'estropient, se tuent quelquefois. Ajoutez à cela les monstres, qui rendent certaines scènes fort pathétiques, tels que des dragons, des lézards, des tortues, des crocodiles, de gros crapauds qui se promènent d'un air menaçant sur le théâtre et font voir à l'opéra les tentations de Saint-Antoine. Chacune de ces figures est animée par un lourdeau de savoyard qui n'a pas l'esprit de faire la bête. Voilà, ma cousine, en quoi consiste à peu près l'auguste appareil de l'opéra, autant que j'ai pu l'observer du parterre à l'aide de ma lorgnette. Car il ne faut pas vous imaginer que ces moyens soient fort cachés et produisent un effet imposant. Je ne vous dis en ceci que ce que j'ai aperçu de moi-même, et ce que peut apercevoir comme moi tout spectateur non préoccupé. On assure pourtant qu'il y a une prodigieuse quantité de machines employées à faire mouvoir tout cela. On m'a offert plusieurs fois de me les montrer, mais je n'ai jamais été curieux de voir comment on fait de petites choses avec de grands efforts. Le nombre de gens occupés au service de l'opéra est inconcevable. L'orchestre et les chœurs composent ensemble près de 100 personnes. Il y a des multitudes de danseurs. Tous les rôles sont doubles ou triples. C'est-à-dire qu'il y a toujours un ou deux acteurs subalternes prêts à remplacer l'acteur principal et payés pour ne rien faire jusqu'à ce qu'il lui plaise de ne plus rien faire à son tour. ce qui ne tarde jamais beaucoup d'arriver. Après quelques représentations, les premiers acteurs, qui sont d'importants personnages, n'honorent plus le public de leur présence. Ils abandonnent la place à leurs substituts et aux substituts de leurs substituts. On reçoit toujours le même argent à la porte, mais on ne donne plus le même spectacle. Chacun prend son billet comme à la loterie, sans savoir quel lot il aura. Et quel qu'il soit, personne n'oserait se plaindre, car, afin que vous le sachiez, les nobles membres de cette académie ne doivent aucun respect au public. C'est le public qui leur en doit. Je ne vous parlerai point de cette musique, vous la connaissez. Mais ce dont vous ne sauriez avoir d'idée, ce sont les cris affreux, les longs mugissements dont retentit le théâtre durant la représentation. On voit les actrices, presque en convulsion, arrachées avec violence ces glapissements de leurs poumons, les poings fermés contre la poitrine, la tête en arrière, le visage enflammé, les vaisseaux gonflés, l'estomac pantelant. On ne sait lequel est le plus désagréablement affecté, de l'œil ou de l'oreille. Leurs efforts font autant souffrir ceux qui les regardent que leurs chants ceux qui les écoutent. Et ce qu'il y a de plus inconcevable est que ces hurlements sont presque la seule chose qu'applaudissent les spectateurs. À leurs battements de mains, on les prendrait pour des sourds charmés de saisir par-ci par-là quelques sons perçants, mais qui veulent engager les acteurs à les redoubler. Pour moi, je suis persuadé qu'on applaudit les cris d'une actrice à l'opéra comme les tours de force d'un batteleur à la foire. La sensation en est déplaisante et pénible, on souffre tandis qu'ils durent, mais on est si aise de les voir finir sans accident qu'on en marque volontiers sa joie. Concevez que cette manière de chanter est employée pour exprimer ce que Kino a jamais dit de plus galant et de plus tendre. Imaginez les muses, les grâces, les amours, Vénus même, s'exprimant avec cette délicatesse, et jugez de l'effet. Pour les diables, passe encore. Cette musique a quelque chose d'infernal qui ne leur messied pas. Aussi, les magies, les évocations et toutes les fêtes du sabbat sont-elles toujours ce qu'on admire le plus à l'opéra français. À ces beaux sons, aussi justes qu'ils sont doux, se marient très dignement ceux de l'orchestre. Figurez-vous un charivari sans fin d'instruments sans mélodie, un ronron traînant et perpétuel de basse. Chose la plus lugubre, la plus assommante que j'ai entendue de ma vie, et que je n'ai jamais pu supporter une demi-heure sans gagner un violent mal de tête. Tout cela forme une espèce de psalmodie à laquelle il n'y a pour l'ordinaire ni chant ni mesure. Mais quand par hasard il se trouve quelque air un peu sautillant, c'est un trépignement universel. Vous entendez tout le parterre en mouvement suivre à grand-peine et à grand bruit un certain homme de l'orchestre. Charmé de sentir un moment cette cadence qu'il sent si peu, il se tourmente l'oreille, la voix, les bras, les pieds et tout le corps pour courir après la mesure, toujours prêt à leur échapper. Au lieu de l'allemand et l'italien, qui en sont intimement affectés, ils la sentent et la suivent sans aucun effort, et n'ont jamais besoin de la battre. Du moins Reggianino m'a-t-il souvent dit que dans les opéras d'Italie, où elle est si sensible et si vive, on entend, on ne voit jamais dans l'orchestre, ni parmi les spectateurs, le moindre mouvement qui la marque. Mais tout annonce en ce pays la dureté de l'organe musical. Les voix y sont dures et sans douceur, les inflexions âpres et fortes, les sons forcés et traînants, nulle cadence, nul accent mélodieux dans les airs du peuple, les instruments militaires, les fifres de l'infanterie, les trompettes de la cavalerie, tous les cors, tous les hautbois, les chanteurs de rue, les violons des guinguettes, tout cela est d'un faux à choquer l'oreille la moins délicate. Tous les talents ne sont pas donnés aux mêmes hommes, et en général le français paraît être de tous les peuples de l'Europe celui qui a le moins d'aptitude à la musique. Milord Edouard prétend que les Anglais en ont aussi peu. Mais la différence est que ceux-ci le savent et ne s'en soucient guère, au lieu que les Français renonceraient à 1000 justes droits et passeraient condamnation sur toute chose plutôt que de convenir qu'ils ne sont pas les premiers musiciens du monde. Il y en a même qui regarderaient volontiers la musique à Paris comme une affaire d'État, peut-être parce que c'en fut une, à Sparte, de couper deux cordes à la lyre de Timothée. À cela, vous sentez qu'on n'a rien à dire. Quoi qu'il en soit, l'Opéra de Paris pourrait être une fort belle institution politique, qu'il n'en plairait pas davantage aux gens de goût. Revenons à ma description. Les ballets, dont il me reste à vous parler, sont la partie la plus brillante de cet opéra. Et considérés séparément, ils font un spectacle agréable, magnifique et vraiment théâtral. mais ils servent comme partie constitutive de la pièce, et c'est en cette qualité qu'il les faut considérer. Vous connaissez les opéras de Kino, vous savez comment les divertissements y sont employés. C'est à peu près de même, ou encore pis, chez ses successeurs. Dans chaque acte, l'action est ordinairement coupée au moment le plus intéressant, par une fête qu'on donne aux acteurs assis, et que le parterre voit debout. Il arrive de là que les personnages de la pièce sont absolument oubliés, ou bien que les spectateurs regardent les acteurs qui regardent autre chose. La manière d'amener ces fêtes est simple. Si le prince est joyeux, on prend part à sa joie, et l'on danse. S'il est triste, on veut l'égayer, et l'on danse. J'ignore si c'est à la mode à la cour de donner le bal aux rois quand ils sont de mauvaise humeur. Ce que je sais par rapport à ceci, c'est qu'on ne peut trop admirer leur constance stoïque à voir des gavottes ou écouter des chansons, tandis qu'on décide quelquefois derrière le théâtre de leur couronne ou de leur sort. Mais il y a bien d'autres sujets de danse. Les plus graves actions de la vie se font en dansant. Les prêtres dansent, les soldats dansent, les dieux dansent, les diables dansent. On danse jusque dans les enterrements. Et on danse à propos de tout. La danse y est donc le quatrième des beaux-arts employés dans la constitution de la scène lyrique. Mais les trois autres concourent à l'imitation. Et celui-là, qu'imite-t-il? Rien. Il est donc hors d'œuvre quand il n'est employé que comme danse. Car que font les menuets, les rigodons, les chaconnes dans une tragédie? Je dis plus. Ils n'y seraient pas moins déplacés s'ils imitaient quelque chose, parce que, de toutes les unités, il n'y en a point de plus indispensable que celle du langage, et un opéra où l'action se passerait moitié en chant, moitié en danse, serait plus ridicule encore que celui où l'on parlerait moitié français, moitié italien. Non content d'introduire la danse comme partie essentielle de la scène lyrique, ils se sont même efforcés d'en faire quelquefois le sujet principal, et ils ont des opéras appelés ballets qui remplissent si mal leur titre que la danse n'y est pas moins déplacée que dans toutes les autres. La plupart de ces ballets forment autant de sujets séparés que d'actes, et ces sujets sont liés entre eux par de certaines relations métaphysiques dont le spectateur ne se douterait jamais si l'auteur n'en avait soin de l'en avertir dans un prologue. Les saisons, les âges, les sens, les éléments. Je demande quel rapport ont tous ces titres à la danse, et ce qu'ils peuvent offrir de ce genre à l'imagination. Quelques-uns même sont purement allégoriques, comme le carnaval et la folie. Et ce sont les plus insupportables de tous, parce que, avec beaucoup d'esprit et de finesse, ils n'ont ni sentiment, ni tableau, ni situation, ni chaleur, ni intérêt, ni rien de tout ce qui peut donner prise à la musique, flatter le cœur et nourrir l'illusion. Dans ces prétendus ballets, l'action se passe toujours en chant, la danse interrompt toujours l'action, ou ne s'y trouve que par occasion et n'imite rien. Tout ce qu'il arrive, c'est que ces ballets, ayant encore moins d'intérêt que les tragédies, cette interruption y est moins remarquée. S'ils étaient moins froids, on en serait plus choqué. Mais un défaut couvre l'autre, et l'art des auteurs, pour empêcher que la danse ne lasse, c'est de faire en sorte que la pièce ennuie. Ceci me mène insensiblement à des recherches sur la véritable constitution du drame lyrique, trop étendu pour entrer dans cette lettre, et qui me jetterait loin de mon sujet. J'en ai fait une petite dissertation à part que vous trouverez ci-jointe et dont vous pourrez causer avec Reggianino. Il me reste à vous dire sur l'opéra français que le plus grand défaut que j'y crois remarquer est un faux goût de magnificence, par lequel on a voulu mettre en représentation le merveilleux qui, n'étant fait que pour être imaginé, est aussi bien placé dans un poème épique que ridiculement sur un théâtre. J'aurais eu peine à croire, si je ne l'avais vu, qu'il se trouva des artistes assez imbéciles pour pouvoir imiter le char du soleil, et des spectateurs assez enfants pour aller voir cette imitation. La Bruyère ne concevait pas comment un spectacle aussi superbe que l'opéra pouvait l'ennuyer à si grands frais. Je le conçois bien, moi, qui ne suis pas un La Bruyère, et je soutiens que, pour tout homme qui n'est pas dépourvu du goût des beaux-arts, la musique française, la danse et le merveilleux mêlés ensemble feront toujours de l'Opéra de Paris le plus ennuyeux spectacle qui puisse exister. Après tout, peut-être n'en faut-il pas aux Français de plus parfait, au moins quant à l'exécution. Non qu'ils ne soient très en état de connaître la bonne, mais parce qu'en ceci, le mal les amuse plus que le bien. Ils aiment mieux railler qu'applaudir. Le plaisir de la critique les dédommage de l'ennui du spectacle. Et il leur est plus agréable de s'en moquer, quand ils n'y sont plus, que de s'y plaire tandis qu'ils y sont. Thank you.
Lettre 24 de Julie à Saint-Preux.
Oui, oui, je le vois bien. L'heureuse Julie t'est toujours chère. Ce même feu qui brillait jadis dans tes yeux se fait sentir dans ta dernière lettre. J'y retrouve toute l'ardeur qui m'anime et la mienne s'en irrite encore. Oui, mon ami, le sort a beau nous séparer, pressons nos cœurs l'un contre l'autre. Conservons par la communication leur chaleur naturelle contre le froid de l'absence et du désespoir, et que tout ce qui devrait relâcher notre attachement ne serve qu'à le resserrer sans cesse. Mais admire ma simplicité. Depuis que j'ai reçu cette lettre, j'éprouve quelque chose des charmants effets dont elle parle, et ce badinage du talisman, quoique inventé par moi-même, ne laisse pas de me séduire et de me paraître une vérité. 100 fois le jour, quand je suis seule, un tressaillement me saisit, comme si je te sentais près de moi. Je m'imagine que tu tiens mon portrait, et je suis si folle que je crois sentir l'impression des caresses que tu lui fais et des baisers que tu lui donnes. Ma bouche croit les recevoir, mon tendre cœur croit les goûter. Ô douces illusions, ô chimères, dernière ressource des malheureux. Ah, s'il se peut, tenez-nous lieu de réalité. Vous êtes quelque chose encore à ceux pour qui le bonheur n'est plus rien. Quant à la manière dont je m'y suis prise pour avoir ce portrait, c'est bien un soin de l'amour. Mais crois que s'il était vrai qu'il fit des miracles, ce n'est pas celui-là qu'il aurait choisi. Voici le mot de l'énigme. Nous eûmes, il y a quelque temps ici, un peintre en miniature venant d'Italie. Il avait des lettres de Milord Édouard, qui peut-être en les lui donnant, avait en vue ce qui est arrivé. Monsieur d'Orbe voulut profiter de cette occasion pour avoir le portrait de ma cousine. Je voulus la voir aussi. Elle et ma mère voulurent avoir le mien, et à ma prière, le peintre en fit secrètement une seconde copie. Ensuite, sans m'embarrasser de copie ni d'original, je choisis subtilement le plus ressemblant des trois pour te l'envoyer. C'est une friponnerie dont je ne me suis pas fait un grand scrupule, car un peu de ressemblance de plus ou de moins n'importe guère à ma mère et à ma cousine, mais les hommages que tu rendrais à une autre figure que la mienne seraient une espèce d'infidélité d'autant plus dangereuse que mon portrait serait mieux que moi, et je ne veux point, comme que ce soit, que tu prennes du goût pour des charmes que je n'ai pas. Au reste, il n'a pas dépendu de moi d'être un peu plus soigneusement vêtu, mais on ne m'a pas écouté, et mon père lui-même a voulu que le portrait demeurât tel qu'il est. Je te prie au moins de croire qu'excepté la coiffure, cet ajustement n'a point été pris sur le mien, que le peintre a tout fait de sa grâce, et qu'il a orné ma personne des ouvrages de son imagination.
Lettre 25 de Saint-Preux à Julie.
Il faut, chère Julie, que je te parle encore de ton portrait. Non plus dans ce premier enchantement auquel tu fus si sensible, mais au contraire avec le regret d'un homme abusé par un faux espoir, et que rien ne peut dédommager de ce qu'il a perdu. Ton portrait a de la grâce et de la beauté, même de la tienne. Il est assez ressemblant, et peint par un habile homme. Mais pour en être content, il faudrait ne pas te connaître. La première chose que je lui reproche est de te ressembler et de n'être pas toi, d'avoir ta figure et d'être insensible. Vainement le peintre a cru rendre exactement tes yeux et tes traits. Il n'a point rendu ce doux sentiment qui les vivifie, et sans lequel, tout charmants qu'ils sont, ils ne seraient rien. C'est dans ton cœur, ma Julie, qu'est le phare de ton visage, et celui-là ne s'imite point. Ceci tient, je l'avoue, à l'insuffisance de l'art, mais c'est au moins la faute de l'artiste de n'avoir pas été exact en tout ce qui dépendait de lui. Par exemple, il a placé la racine des cheveux trop loin des tempes, ce qui donne au front un contour moins agréable et moins de finesse au regard. Il a oublié les rameaux de pourpre que font à cet endroit 2 ou 3 petites veines sous la peau, à peu près comme ces fleurs d'iris que nous considérions un jour au jardin de Clarence. Le coloris des joues est trop près des yeux, et ne se font pas délicieusement en couleur de rose vers le bas du visage, comme sur le modèle. On dirait que c'est du rouge artificiel plaqué comme le carmin des femmes de ce pays. Ce défaut n'est pas peu de chose, car il te rend l'œil moins doux et l'air plus hardi. Mais dis-moi, qu'a-t-il fait de ces niches d'amour qui se cachent aux 2 coins de ta bouche, et que dans mes jours fortunés, j'osais réchauffer quelquefois de la mienne? Il n'a point donné leur grâce à ces coins, il n'a pas mis à cette bouche ce tour agréable et sérieux qui change tout à coup à ton moindre sourire et porte au cœur je ne sais quel enchantement inconnu, je ne sais quel soudain ravissement que rien ne peut exprimer. Il est vrai que ton portrait ne peut passer du sérieux au sourire. Ah, c'est précisément de quoi je me plains. Pour pouvoir exprimer tous tes charmes, il faudrait te peindre dans tous les instants de ta vie. Passons au peintre d'avoir omis quelques beautés. Mais en quoi il n'a pas fait moins de tort à ton visage, c'est d'avoir omis les défauts. Il n'a point fait cette tache presque imperceptible que tu as sous l'œil droit, ni celle qui est au cou du côté gauche. Il n'a point mis. Oh Dieu, cet homme était-il de bronze? Il a oublié la petite cicatrice qui t'est restée sous la lèvre. Il t'a fait les cheveux et les sourcils de la même couleur, ce qui n'est pas. Les sourcils sont plus châtains et les cheveux plus cendrés. Bionda testa, occhi azzurri, e bruno seglio. Il a fait le bas du visage exactement ovale. Il n'a pas remarqué cette légère sinuosité qui, séparant le menton des joues, rend leurs contours moins réguliers et plus gracieux. Voilà les défauts les plus sensibles. Il en a omis beaucoup d'autres, et je lui en sais fort mauvais gré, car ce n'est pas seulement de tes beautés que je suis amoureux, mais de toi tout entière, telle que tu es. Si tu ne veux pas que le pinceau te prête rien, moi je ne veux pas qu'il t'ôte rien. Et mon cœur se soucie aussi peu des attraits que tu n'as pas qu'il est jaloux de ce qui tient leur place. Quant à l'ajustement, je le passerai d'autant moins que, parée ou négligée, je t'ai toujours vue mise avec beaucoup plus de goût que tu ne l'es dans ton portrait. La coiffure est trop chargée. On me dira qu'il n'y a que des fleurs. Eh bien, ces fleurs sont de trop. Te souviens-tu de ce bal où tu portais ton habit à la Valaisanne et où ta cousine dit que je dansais en philosophe? Tu n'avais pour toute coiffure qu'une longue tresse de tes cheveux roulée autour de ta tête et rattachée avec une aiguille d'or, à la manière des villageoises de Berne. Non, le soleil, orné de tous ses rayons, n'a pas l'éclat dont tu frappais les yeux et les cœurs. Et sûrement, quiconque te vit ce jour-là ne t'oubliera de sa vie. C'est ainsi, ma Julie, que tu dois être coiffée. Et c'est l'or de tes cheveux qui doit parer ton visage, et non cette rose qui les cache et que ton teint flétrit. Disait la cousine, car je reconnais ses soins et son choix, que ces fleurs dont elle a couvert et profané ta chevelure ne sont pas de meilleur goût que celles qu'elle recueille dans la Dône, et qu'on peut leur passer de suppléer à la beauté, mais non de la cacher. À l'égard du buste, il est singulier qu'un amant soit là-dessus plus sévère qu'un père. Mais en effet, je ne t'y trouve pas vêtue avec assez de soin. Le portrait de Julie doit être modeste, comme elle. Amour, ses secrets n'appartiennent qu'à toi. Tu dis que le peintre a tout tiré de son imagination. Je le crois, je le crois. S'il eût aperçu le moindre de ces charmes voilés, ses yeux l'eussent dévoré, mais sa main n'eût point tenté de les peindre. Pourquoi faut-il que son art téméraire ait tenté de les imaginer? Ce n'est pas seulement un défaut de bienséance, je soutiens que c'est encore un défaut de goût. Oui, ton visage est trop chaste pour supporter le désordre de ton sein. On voit que l'un de ces deux objets doit empêcher l'autre de paraître, et il n'y a que le délire de l'amour qui puisse les accorder. Et quand sa main ardente ose dévoiler celui que la pudeur couvre, l'ivresse et le trouble de tes yeux dit alors que tu l'oublies, et non que tu l'exposes. Voilà la critique qu'une attention continuelle m'a fait faire de ton portrait. J'ai conçu là-dessus le dessein de le reformer selon mes idées. Je les ai communiquées à un peintre habile, et, sur ce qu'il a déjà fait, j'espère te voir bientôt plus semblable à toi-même. De peur de gâter le portrait, nous essayons les changements sur une copie que je lui ai fait faire, et il ne les transporte sur l'original que quand nous sommes bien sûrs de leur effet. Quoique je dessine assez médiocrement, cet artiste ne peut se lasser d'admirer la subtilité de mes observations. Il ne comprend pas combien celui qui me les dicte est un maître plus savant que lui. Je lui parais aussi quelquefois fort bizarre. Il dit que je suis le premier amant qui s'avise de cacher des objets qu'on n'expose jamais assez au gré des autres. Et quand je lui réponds que c'est pour mieux te voir tout entière que je t'habille avec tant de soin, il me regarde comme un fou. Ah, que ton portrait serait bien plus touchant si je pouvais inventer des moyens d'y montrer ton âme avec ton visage, et d'y peindre à la fois ta modestie et tes attraits. Je te jure, ma Julie, qu'ils gagneront beaucoup à cette réforme. On n'y voyait que ceux qu'avait supposés le peintre, et le spectateur ému les supposera tels qu'ils sont. Je ne sais quel enchantement secret règne dans ta personne, mais tout ce qui la touche semble y participer. Il ne faut qu'apercevoir un coin de ta robe pour adorer celle qui la porte. On sent, en regardant ton ajustement, que c'est partout le voile des grâces qui couvre la beauté, et le goût de ta modeste parure semble annoncer au cœur tous les charmes qu'elle recèle.
Lettre 26 de Saint-Preux à Julie.
Julie, ô Julie, ô toi qu'un temps j'osais appeler mienne et dont je profane aujourd'hui le nom. La plume échappe à ma main tremblante, mes larmes inondent le papier. J'ai peine à former les premiers traits d'une lettre qu'il ne fallait jamais écrire. Je ne puis ni me taire ni parler. Viens, honorable et chère image, viens épurer et raffermir un cœur avili par la honte et brisé par le repentir. Soutiens mon courage qui s'éteint. Donne à mes remords la force d'avouer le crime involontaire que ton absence m'a laissé commettre. Que tu vas avoir de mépris pour un coupable, mais bien moins que je n'en ai pour moi-même. Quelque abject que j'aille être à tes yeux, je le suis 100 fois plus au mien propre, car en me voyant tel que je suis, ce qui m'humilie le plus encore, c'est de te voir, de te sentir au fond de mon cœur, dans un lieu désormais si peu digne de toi, et de songer que le souvenir des plus vrais plaisirs de l'amour n'a pu garantir mes sens d'un piège sans appât et d'un crime sans charme. Tel est l'excès de ma confusion, qu'en recouvrant à ta clémence, je crains même de souiller tes regards sur ces lignes par l'aveu de mon forfait. Pardonne, âme pure et chaste, un récit que j'épargnerais à ta modestie s'il n'en était un moyen d'expier mes égarements. Je suis indigne de tes bontés, je le sais, je suis vil, bas, méprisable. Mais au moins, je ne serai ni faux ni trompeur. Et j'aime mieux que tu m'ôtes ton cœur et la vie que de t'abuser un seul moment. De peur d'être tenté de chercher des excuses qui me rendraient plus que criminel, je me bornerai à faire un détail exact de ce qui m'est arrivé. Il sera aussi sincère que mon regret. C'est tout ce que je me permettrai de dire en ma faveur. J'avais fait connaissance avec quelques officiers aux gardes et autres jeunes gens de nos compatriotes, auxquels je trouve un mérite naturel, que j'avais regret de voir gâté par l'imitation de je ne sais quels faux airs qui ne sont pas faits pour eux. Ils se moquaient à leur tour de me voir conserver dans Paris la simplicité des antiques mœurs helvétiques. Ils prirent mes maximes et mes manières pour des leçons indirectes dont ils furent choqués, et résolurent de me faire changer de ton à quelque prix que ce fût. Après plusieurs tentatives, qui ne réussirent point, ils en firent une mieux concertée qui n'eut que trop de succès. Hier matin, ils vinrent me proposer d'aller souper chez la femme d'un colonel, qu'ils me nommèrent, et qui, sur le bruit de ma sagesse, avait, disaient-ils, envie de faire connaissance avec moi. Assez sot pour donner dans ce persiflage, je leur représentai qu'il serait mieux d'aller premièrement lui faire visite. Mais ils se moquèrent de mon scrupule, me disant que la franchise suisse ne comportait pas tant de façons, et que ses manières cérémonieuses ne servaient qu'à lui donner mauvaise opinion de moi. À 9 heures, nous nous rendîmes donc chez la dame. Elle vint nous recevoir sur l'escalier, ce que je n'avais jamais encore observé nulle part. En entrant, je vis à des bras de cheminée de vieilles bougies qu'on venait d'allumer, et partout, un certain air d'apprêt qui ne me plut point. La maîtresse de maison me parut jolie, quoique un peu passée. D'autres femmes, à peu près du même âge et d'une semblable figure, étaient avec elle. Leur parure, assez brillante, avait plus d'éclat que de goût. Mais j'ai déjà remarqué que c'est un point sur lequel on ne peut guère juger, en ce pays, de l'état d'une femme. Les premiers compliments se passèrent à peu près comme partout. L'usage du monde apprend à les abréger ou à les tourner vers l'enjouement avant qu'ils ennuient. Ce ne fut pas tout à fait de même sitôt que la conversation devint générale et sérieuse. Je crus trouver à ces dames un air contraint et gêné, comme si ce ton ne leur eût pas été familier. Et pour la première fois depuis que j'étais à Paris, je vis des femmes embarrassées à soutenir un entretien raisonnable. Pour trouver une manière aisée, elles se jetèrent sur leurs affaires de famille. Et comme je n'en connaissais pas une, chacune dit de la sienne ce qu'elle voulut. Jamais je n'avais tant ouï parler, monsieur le colonel. Ce qui m'étonnait, dans un pays où l'usage est d'appeler les gens par leur nom plutôt que par leur titre, et où ceux qui y ont celui-là emportent ordinairement d'autres. Cette fausse dignité fit bientôt place à des manières plus naturelles. On se mit à causer tout bas, et reprenant sans y penser un ton de familiarité peu décente, on me chuchotait, on souriait en me regardant, tandis que la dame de la maison me questionnait sur l'état de mon cœur d'un certain ton résolu qui n'était guère propre à le gagner. On servit, et la liberté de la table, qui semble confondre tous les états, mais qui met chacun à sa place sans qu'il y songe, acheva de m'apprendre en quel lieu j'étais. Il était trop tard pour m'en dédire. Tirant donc ma sûreté de ma répugnance, je consacrai cette soirée à ma fonction d'observateur, et résolu d'employer à connaître cet ordre de femmes la seule occasion que j'en aurais de ma vie. Je tirai peu de fruits de mes remarques. Elles avaient si peu d'idées de leur état présent, si peu de prévoyance pour l'avenir, et, hors du jargon de leur métier, elles étaient si stupides à tous égards que le mépris effaça bientôt la pitié que j'avais d'abord pour elles. En parlant du plaisir même, je vis qu'elles étaient incapables d'en ressentir. Elles me parurent d'une violente avidité pour tout ce qui pouvait tenter leur avarice. À cela près, je n'entendis sortir de leur bouche aucun mot qui partit du cœur. J'admirais comment d'honnêtes gens pouvaient supporter une société si dégoûtante. C'eût été leur imposer une peine cruelle, à mon avis, que de les condamner au genre de vie qu'ils choisissaient eux-mêmes. Cependant, le souper se prolongeait et devenait bruyant. Au défaut de l'amour, le vin échauffait les convives. Les discours n'étaient pas tendres, mais déshonnêtes, et les femmes tâchaient d'exciter, par le désordre de leur ajustement, les désirs qui leur aient dû causer. D'abord, tout cela ne fit sur moi qu'un effet contraire, et tous leurs efforts pour me séduire ne servaient qu'à me rebuter. Douce pudeur, disais-je en moi-même. Suprême volupté de l'amour, que de charme perd une femme au moment qu'elle renonce à toi. Combien, si elle connaissait ton empire, elle mettrait de soin à te conserver, sinon par honnêteté, du moins par coquetterie. Mais on ne joue point la pudeur. Il n'y a pas d'artifice plus ridicule que celui qui la veut imiter. Quelle différence, pensais-je encore, de la grossière impudence de ces créatures et de leurs équivoques licencieuses à ces regards timides et passionnés, à ces propos pleins de modestie, de grâce et de sentiments dont je n'osais achever. Je rougissais de ces indignes comparaisons. Je me reprochais comme autant de crimes les charmants souvenirs qui me poursuivaient malgré moi. En quel lieu osais-je penser à celle, hélas, ne pouvant écarter de mon cœur une trop chère image, je m'efforçais de la voiler. Le bruit, les propos que j'entendais, les objets qui frappaient mes yeux, m'échauffèrent insensiblement. Mes deux voisines ne cessaient de me faire des agaceries, qui furent enfin poussées trop loin pour me laisser de sang-froid. Je sentis que la tête m'embarrassait. J'avais toujours bu mon vin fort trempé. J'y mis plus d'eau encore. Et enfin, je m'avisai de la boire pure. Alors seulement, je m'aperçus que cette eau prétendue était du vin blanc, et que j'avais été trompé tout le long du repas. Je ne fis point des plaintes, qui ne m'auraient attiré que des railleries. Je cessai de boire, mais il n'était plus temps, le mal était fait. L'ivresse ne tarda pas à m'ôter le peu de connaissances qui me restaient. Je fus surpris, en revenant à moi, de me trouver dans un cabinet reculé, entre les bras d'une de ces créatures, et j'eus au même instant le désespoir de me sentir aussi coupable que je pouvais l'être. J'ai fini ce récit affreux, qu'il ne souille plus tes regards ni ma mémoire. Ô toi, dont j'attends mon jugement, j'implore ta rigueur, je la mérite. Quel que soit mon châtiment, il me sera moins cruel que le souvenir de mon crime.
Lettre 27. Réponse de Julie à Saint-Preux.
Rassurez-vous sur la crainte de m'avoir irritée. Votre lettre m'a donné plus de douleur que de colère. Ce n'est pas moi, c'est vous que vous avez offensé, par un désordre auquel le cœur n'eut point de part. Je n'en suis que plus affligée. J'aimerais mieux vous voir m'outrager que vous avilir, et le mal que vous vous faites est le seul que je ne puis vous pardonner. À ne regarder que la faute dont vous rougissez, vous vous trouvez bien plus coupable que vous ne l'êtes, et je ne vois guère en cette occasion que de l'imprudence à vous reprocher. Mais ceci vient de plus loin, et tient à une plus profonde racine que vous n'apercevez pas, et qu'il faut que l'amitié vous découvre. Votre première erreur est d'avoir pris une mauvaise route en entrant dans le monde. Plus vous avancez, plus vous vous égarez, et je vois en frémissant que vous êtes perdu si vous ne revenez sur vos pas. Vous vous laissez conduire insensiblement dans le piège que j'avais craint. Les grossières amorces du vice ne pouvaient d'abord vous séduire, mais la mauvaise compagnie a commencé par abuser votre raison pour corrompre votre vertu et fait déjà sur vos mœurs le premier essai de ses maximes. Quoique vous ne m'ayez rien dit en particulier des habitudes que vous vous êtes faites à Paris, il est aisé de juger de vos sociétés par vos lettres et de ceux qui vous montrent les objets par votre manière de les voir. Je ne vous ai point caché combien j'étais peu contente de vos relations. Vous avez continué sur le même ton et mon déplaisir n'a fait qu'augmenter. En vérité, l'on prendrait ces lettres pour les sarcasmes d'un petit maître plutôt que pour les relations d'un philosophe, et l'on a peine à les croire de la même main que celles que vous m'écriviez autrefois. Quoi ? Vous pensez étudier les hommes dans les petites manières de quelques coteries de précieuses ou de gens désœuvrés ? Et ce vernis extérieur et changeant, qui devait à peine frapper vos yeux, fait le fond de toutes vos remarques. Était-ce la peine de recueillir avec tant de soin des usages et des bienséances qui n'existeront plus dans 10 ans d'ici, tandis que les ressorts éternels du cœur humain, le jeu secret et durable des passions, échappent à vos recherches? Prenons votre lettre sur les femmes. Qui trouverais-je qui puisse m'apprendre à les connaître? Quelques descriptions de leur parure, dont tout le monde est instruit? Quelques observations malignes sur leur manière de se mettre et de se présenter? Quelque idée du désordre d'un petit nombre injustement généralisé? Comme si tous les sentiments honnêtes étaient éteints à Paris et que toutes les femmes y allassent en carrosse et aux premières loges. M'avez-vous rien dit qui m'instruise solidement de leur goût, de leur maxime, de leur vrai caractère? Et n'est-il pas bien étrange qu'en parlant des femmes d'un pays, un homme sage ait oublié ce qui regarde les soins domestiques et l'éducation des enfants? La seule chose qui semble être de vous dans toute cette lettre, c'est le plaisir avec lequel vous louez leur bon naturel et qui fait honneur au vôtre. Encore n'avez-vous fait en cela que rendre justice au sexe en général, et dans quel pays du monde la douceur et la commisération ne sont-elles pas l'aimable partage des femmes? Quelle différence de tableau si vous m'eussiez peint ce que vous aviez vu, plutôt que ce qu'on vous avait dit, ou du moins que vous n'eussiez consulté que des gens sensés. Faut-il que vous, qui avez tant pris de soin à conserver votre jugement, alliez le perdre, comme de propos délibérés, dans le commerce d'une jeunesse inconsidérée qui ne cherche dans la société des sages qu'à les séduire et non pas à les imiter. Vous regardez à de fausses convenances d'âge qui ne vous vont point, et vous oubliez celles de lumière et de raison qui vous sont essentielles. Malgré tout votre emportement, vous êtes le plus facile des hommes, et malgré la maturité de votre esprit, vous vous laissez tellement conduire par ceux avec qui vous vivez que vous ne sauriez fréquenter des gens de votre âge sans en descendre et redevenir enfant. Ainsi, vous vous dégradez en pensant vous assortir, et c'est vous mettre au-dessous de vous-même que de ne pas choisir des amis plus sages que vous. Je ne vous reproche point d'avoir été conduit sans le savoir dans une maison déshonnête, mais je vous reproche d'y avoir été conduit par de jeunes officiers que vous ne deviez pas connaître, ou du moins auxquels vous ne deviez pas laisser diriger vos amusements. Quant au projet de les ramener à vos principes, j'y trouve plus de zèle que de prudence. Si vous êtes trop sérieux pour être leur camarade, vous êtes trop jeune pour être leur mentor, et vous ne devez vous mêler de réformer autrui que quand vous n'aurez plus rien à faire en vous-même. Une seconde faute, plus grave encore, et beaucoup moins pardonnable, est d'avoir pu passer volontairement la soirée dans un lieu si peu digne de vous, et de n'avoir pas fui dès le premier instant où vous avez connu dans quelle maison vous étiez. Vos excuses là-dessus sont pitoyables. Il était trop tard pour s'en dédire, comme s'il y avait quelque espèce de bienséance en de pareils lieux, ou que la bienséance dût jamais l'emporter sur la vertu, qu'il fût jamais trop tard pour s'empêcher de mal faire. Quant à la sécurité que vous tirez de votre répugnance, je n'en dirai rien. L'événement vous a montré combien elle était fondée. Parlez plus franchement à celle qui sait lire dans votre cœur. C'est la honte qui vous retint. Vous craignîtes qu'on ne se moquât de vous en sortant. Un moment de huée vous fit peur, et vous aimâtes mieux vous exposer au remords qu'à la raillerie. Savez-vous bien quelle maxime vous suivit en cette occasion? Celle qui la première introduit le vice dans une âme bien née, étouffe la voix de la conscience par la clameur publique et réprime l'audace de bien faire par la crainte du blâme. Telle vaincrait les tentations qui succombent aux mauvais exemples, telle rougit d'être modeste et devient effrontée par honte. Et cette mauvaise honte corrompt plus de cœurs honnêtes que les mauvaises inclinations. Voilà surtout de quoi vous avez à préserver le vôtre car, quoi que vous fassiez, la crainte du ridicule que vous méprisez vous domine pourtant malgré vous. Vous braveriez plutôt sans péril qu'une raillerie, et l'on ne vit jamais tant de timidité jointe à une âme aussi intrépide. Sans vous étaler contre ce défaut des préceptes de morale que vous savez mieux que moi, je me contenterai de vous proposer un moyen pour vous en garantir, plus facile et plus sûr peut-être que tous les raisonnements de la philosophie. C'est de faire, dans votre esprit, une légère transposition de temps et d'anticiper sur l'avenir de quelques minutes. Si, dans ce malheureux souper, vous vous fussiez fortifié contre un instant de moquerie de la part des convives, par l'idée de l'état où votre âme allait être sitôt que vous seriez dans la rue, si vous vous fussiez représenté le contentement intérieur d'échapper au piège du vice, l'avantage de prendre d'abord cette habitude de vaincre qui en facilite le pouvoir, le plaisir que vous eût donné la conscience de votre victoire, celui de me la décrire, celui que j'en aurais reçu moi-même, est-il croyable que tout cela ne l'eût pas emporté sur une répugnance d'un instant à laquelle vous n'eussiez jamais cédé si vous en aviez envisagé les suites? Encore, qu'est-ce que cette répugnance qui met un prix aux railleries de gens dont l'estime n'en peut avoir aucun? Infailliblement, cette réflexion vous eût sauvé, pour un moment de mauvaise honte, une honte beaucoup plus juste, plus durable, les regrets, le danger, et pour ne vous rien dissimuler, votre ami eût versé quelques larmes de moins. Vous voulûtes, dites-vous, mettre à profit cette soirée pour votre fonction d'observateur. Quel soin, quel emploi, que vos excuses me font rougir de vous! Ne serez-vous point aussi curieux d'observer un jour les voleurs dans leur caverne et de voir comment ils s'y prennent pour dévaliser les passants? Ignorez-vous qu'il y a des objets si odieux qu'il n'est pas même permis à l'homme d'honneur de les voir et que l'indignation de la vertu ne peut supporter le spectacle du vice? Le sage observe le désordre public qu'il ne peut arrêter. Il l'observe et montre sur son visage attristé la douleur qu'il lui cause. Mais quant au désordre particulier, il s'y oppose, ou détourne les yeux de peur qu'il ne s'autorise de sa présence. D'ailleurs, était-il besoin de voir de pareilles sociétés pour juger de ce qui s'y passe et des discours qu'on y tient? Pour moi, sur leur seul objet, plus que sur le peu que vous m'en avez dit, je devine aisément tout le reste, et l'idée des plaisirs qu'on y trouve me fait connaître assez les gens qui les cherchent. Je ne sais si votre commode philosophie adopte déjà les maximes qu'on dit établies dans les grandes villes pour tolérer de semblables lieux, mais j'espère au moins que vous n'êtes pas de ceux qui se méprisent assez pour s'en permettre l'usage, sous prétexte de je ne sais quelle chimérique nécessité qui n'est connue que des gens de mauvaise vie. Comme si les deux sexes étaient sur ce point de nature différente, et que dans l'absence ou le célibat, il fallut à l'honnête homme des ressources dont l'honnête femme n'a pas besoin. Si cette erreur ne vous mène pas chez des prostituées, j'ai bien peur qu'elle ne continue à vous égarer vous-même. Ah, si vous voulez être méprisable, soyez-le au moins sans prétexte, et n'ajoutez point le mensonge à la crapule. Tous ces prétendus besoins n'ont point leur source dans la nature, mais dans la volontaire dépravation des sens. Les illusions mêmes de l'amour se purifient dans un cœur chaste, et ne corrompent jamais qu'un cœur déjà corrompu. Au contraire, la pureté se soutient par elle-même, les désirs toujours réprimés s'accoutument à ne plus renaître, et les tentations ne se multiplient que par l'habitude d'y succomber. L'amitié m'a fait surmonter deux fois ma répugnance à traiter un pareil sujet. Celle-ci sera la dernière, car à quel titre espérerais-je obtenir de vous ce que vous avez refusé à l'honnêteté, à l'amour et à la raison? Je reviens au point important par lequel j'ai commencé cette lettre. À 21 ans, vous m'écriviez du Valais des descriptions graves et judicieuses. À 25, vous m'envoyez de Paris des colifichets de lettres où le sens et la raison sont partout sacrifiés à un certain tour plaisant, fort éloigné de votre caractère. Je ne sais comment vous avez fait, mais depuis que vous vivez dans le séjour des talents, les vôtres paraissent diminuer. Vous aviez gagné chez les paysans et vous perdez parmi les beaux esprits. Ce n'est pas la faute du pays où vous vivez, mais des connaissances que vous y avez faites, car il n'y a rien qui demande tant de choix que le mélange de l'excellent et du pire. Si vous voulez étudier le monde, fréquenter les gens sensés qui le connaissent par une longue expérience et de paisibles observations, non de jeunes étourdis qui n'en voient que la superficie et des ridicules qu'ils font eux-mêmes. Paris est plein de savants accoutumés à réfléchir et à qui ce grand théâtre en offre tous les jours le sujet. Vous ne me ferez point croire que ces hommes graves et studieux vont courant comme vous de maison en maison, de coterie en coterie, pour amuser les femmes et les jeunes gens et mettre toute la philosophie en babil. Ils ont trop de dignité pour avilir ainsi leur état, prostituer leur talent et soutenir par leur exemple des mœurs qu'ils devraient corriger. Quand la plupart le feraient, sûrement plusieurs ne le font point, et c'est cela que vous devez rechercher. N'est-il pas singulier encore que vous donniez vous-même dans le défaut que vous reprochez aux modernes auteurs comiques, que Paris ne soit plein pour vous que de gens de condition, que ceux de votre état soient les seuls dont vous ne parliez point, comme si les vains préjugés de la noblesse ne vous coûtaient pas assez cher pour les haïr, et que vous crussiez vous dégrader en fréquentant d'honnêtes bourgeois, qui sont peut-être l'ordre le plus respectable du pays où vous êtes. Vous avez beau vous excuser sur les connaissances de Milord Édouard, avec celles-là vous en eussiez bientôt fait d'autres dans un ordre inférieur. Tant de gens veulent monter, qu'il est toujours aisé de descendre, et de votre propre aveu, c'est le seul moyen de connaître les véritables mœurs d'un peuple que d'étudier sa vie privée dans les états les plus nombreux, car s'arrêter aux gens qui représentent toujours, c'est ne voir que des comédiens. Je voudrais que votre curiosité alla plus loin encore. Pourquoi, dans une ville si riche, le bas peuple est-il si misérable, tandis que la misère extrême est si rare parmi nous, où l'on ne voit point de millionnaires? Cette question, ce me semble, est bien digne de vos recherches, mais ce n'est pas chez les gens avec qui vous vivez que vous devez vous attendre à la résoudre. C'est dans les appartements dorés qu'un écolier va prendre les airs du monde, mais le sage en apprend les mystères dans la chaumière du pauvre. C'est là qu'on voit sensiblement les obscures manœuvres du vice, qu'il couvre de paroles fardées au milieu d'un cercle. C'est là qu'on s'instruit par quelles iniquités secrètes le puissant et le riche arrachent un reste de pain noir à l'opprimé qu'il feigne de plaindre en public. Ah, si j'en crois nos vieux militaires, que de choses vous apprendriez dans les greniers d'un cinquième étage, qu'on ensevelit sous un profond secret dans les hôtels du faubourg Saint-Germain, et que tant de beaux parleurs seraient confus avec leurs feintes maximes d'humanité, si tous les malheureux qu'ils ont faits se présentaient pour les démentir. Je sais qu'on n'aime pas le spectacle de la misère qu'on ne peut soulager, et que le riche même détourne les yeux du pauvre qu'il refuse de secourir. Mais ce n'est pas d'argent seulement qu'ont besoin les infortunés, et il n'y a que les paresseux de bien faire qui ne sachent faire du bien que la bourse à la main. Les consolations, les conseils, les soins, les amis, la protection sont autant de ressources que la commisération vous laisse, au défaut des richesses, pour le soulagement de l'indigent. Souvent, les opprimés ne le sont que parce qu'ils manquent d'organes pour faire entendre leurs plaintes. Il ne s'agit quelquefois que d'un mot qu'ils ne peuvent dire, d'une raison qu'ils ne savent point exposer, de la porte d'un grand qu'ils ne peuvent franchir. L'intrépide appui de la vertu désintéressée suffit pour lever une infinité d'obstacles, et l'éloquence d'un homme de bien peut effrayer la tyrannie au milieu de toute sa puissance. Si vous voulez donc être homme, en effet, apprenez à redescendre. L'humanité coule comme une eau pure et salutaire, et va fertiliser les lieux bas. Elle cherche toujours le niveau. Elle laisse à sec ces roches arides qui menacent la campagne et ne donne qu'une ombre nuisible ou des éclats pour écraser leurs voisins. Voilà, mon ami, comment on tire parti du présent en s'instruisant pour l'avenir et comment la bonté met d'avance à profit les leçons de la sagesse afin que, quand les lumières acquises nous resteraient inutiles, on n'ait pas pour cela perdu le temps employé à les acquérir. Qui doit vivre parmi des gens en place ne saurait prendre trop de préservatifs contre leurs maximes empoisonnées. Et il n'y a que l'exercice continuel de la bienfaisance qui garantisse les meilleurs cœurs de la contagion des ambitieux. Essayez, croyez-moi, de ce nouveau genre d'études. Il est plus digne de vous que ceux que vous avez embrassés. Et comme l'esprit s'étrécit à mesure que l'âme se corrompt, vous sentirez bientôt, au contraire, combien l'exercice des sublimes vertus élève et nourrit le génie, combien un tendre intérêt au malheur d'autrui sert mieux à en trouver la source et à nous éloigner en tous sens des vices qui les ont produits. Je vous devais toute la franchise de l'amitié dans la situation critique où vous me paraissez être, de peur qu'un second pas vers le désordre ne vous y plongeât enfin sans retour, avant que vous eussiez le temps de vous reconnaître. Maintenant, je ne puis vous cacher, mon ami, combien votre prompte et sincère confession m'a touchée, car je sens combien vous a coûté la honte de cet aveu, et par conséquent combien celle de votre faute vous pesait sur le cœur. Une erreur involontaire se pardonne et s'oublie aisément. Quant à l'avenir, retenez bien cette maxime dont je ne me départirai point. Qui peut s'abuser deux fois en pareil cas, ne sait pas même abuser la première. Adieu, mon ami. Veille avec soin sur ta santé, je t'en conjure, et songe qu'il ne doit rester aucune trace d'un crime que j'ai pardonné. P.S. Je viens de voir entre les mains de M. Dorbe des copies de plusieurs de vos lettres à Milord Édouard, qui m'obligent à rétracter une partie de mes censures sur les matières et le style de vos observations. Celles-ci traitent, j'en conviens, de sujets importants et me paraissent pleines de réflexions graves et judicieuses. Mais, en revanche, il est clair que vous nous dédaignez beaucoup, ma cousine et moi, ou que vous faites bien peu de cas de notre estime en ne nous envoyant que des relations si propres à l'altérer, tandis que vous en faites pour votre ami de beaucoup meilleurs. C'est, ce me semble, assez mal honorer vos leçons que de juger vos écolières indignes d'admirer vos talents, et vous devriez feindre, au moins par vanité, de nous croire capables de vous entendre. J'avoue que la politique n'est guère du ressort des femmes. Et mon oncle nous en a tant ennuyés que je comprends comment vous avez pu craindre d'en faire autant. Ce n'est pas non plus, à vous parler franchement, l'étude à laquelle je donnerais la préférence. Son utilité est trop loin de moi pour me toucher beaucoup, et ses lumières sont trop sublimes pour frapper vivement mes yeux. Obligé d'aimer le gouvernement sous lequel le ciel m'a fait naître, je me soucie peu de savoir s'il en est de meilleurs. De quoi me servirait de les connaître, avec si peu de pouvoir pour les établir? Et pourquoi contristerais-je mon âme à considérer de si grands maux où je ne peux rien, tant que j'en vois d'autres autour de moi qu'il m'est permis de soulager? Mais je vous aime, et l'intérêt que je ne prends pas au sujet, je le prends à l'auteur qui le traite. Je recueille avec une tendre admiration toutes les preuves de votre génie, et, fier d'un mérite si digne de mon cœur, je ne demande à l'amour qu'autant d'esprit qu'il m'en faut pour sentir le vôtre. Ne me refusez donc pas le plaisir de connaître et d'aimer tout ce que vous faites de bien. Voulez-vous me donner l'humiliation de croire que, si le ciel unissait nos destinées, vous ne jugeriez pas votre compagne digne de penser avec vous ?
Lettre 28 de Julie à Saint-Preux.
Tout est perdu, tout est découvert. Je ne trouve plus tes lettres dans le lieu où je les avais cachées. Elles y étaient encore hier au soir. Elles n'ont pu être enlevées que d'aujourd'hui. Ma mère seule peut les avoir surprises. Si mon père les voit, c'est fait de ma vie. Eh, que servirait qu'il ne les vit pas s'il faut renoncer? Ah Dieu, ma mère m'envoie appeler. Où fuir? Comment soutenir ses regards? Que ne puis-je me cacher au sein de la terre? Tout mon corps tremble et je suis hors d'état de faire un pas. La honte, l'humiliation, les cuisants reproches, j'ai tout mérité, je supporterai tout. Mais la douleur, les larmes d'une mère éplorée, oh mon cœur, quel déchirement! Elle m'attend, je ne puis tarder davantage, elle voudra savoir, il faudra tout dire. Reggianino sera congédié. Ne m'écris plus jusqu'à nouvel avis. Qui sait si jamais je pourrais... Quoi? Mentir? Mentir à ma mère? Ah, s'il faut nous sauver par le mensonge. Adieu, nous sommes perdus.
Donneur de voix ayant participé à ce projet collectif par ordre des lettres. Saint-Preux, Aymeric. Milord Édouard, Vincent de l'Épine. Julie, Pauline Pusciano. Claire, Domi.